Bonjour, vous êtes bien installé? Prenez votre temps, c'est votre moment. Le calme vous entoure, votre respiration s'apaise, vous êtes prêt. Vous saisissez ce livre qui n'attend que vous. Au creux de vos mains, il se réchauffe, se réveille et commence doucement à pénétrer votre esprit. Le livre En Vie, c'est l'occasion de partager avec vous mes expériences singulières, mes rencontres avec ces livres dont on ressort toujours un peu plus vivant. Quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Aujourd'hui, Sous le règne de Beaune, de Russell Banks, roman de formation pour le moins percutant. Nous sommes ici quasi dans le road movie. Sous le règne de Beaune, c'est LE texte emblématique d'une certaine jeunesse américaine de la fin du XXe siècle. Mon existence est devenue intéressante, disons, l'été de mes 14 ans. J'étais à fond dans la fumette et comme j'avais pas d'argent pour m'acheter de l'herbe, je me suis mis à fouiner tout le temps dans la maison pour dénicher des trucs à vendre, mais bon, il n'y avait pas grand-chose. Beaune, sa crête, son nez percé et son tatouage prend alors la route. Tout au long de ce roman, on suit ses aventures et ses rencontres avec tout ce que l'Amérique et la Jamaïque comptent de marginaux, d'aventuriers et de sages. Le succès considérable que ce roman connaît aux États-Unis tient sans doute à l'art, si particulier chez Russell Banks, qui consiste à se mettre à fond dans la peau, la mentalité et le langage d'un personnage à la fois emblématique et révélateur de la société dans laquelle il évolue. On verra d'ailleurs en Beaune le successeur, un siècle plus tard, de Huckleberry Finn, l'inoubliable personnage de Mark Twain. L'écrivain américain Russell Banks est aujourd'hui reconnu comme étant l'un des écrivains les plus accomplis de sa génération. En 1998, il a été nommé membre de la prestigieuse American Academy of Arts and Letters. Il est également président du Parlement international des écrivains. Vous allez sans doute croire que j'invente pour avoir l'air mieux ou que je suis en réalité ou plus malin ou pour me vanter d'avoir de la chance. Mais c'est faux. En plus, bien des choses qui me sont arrivées jusqu'ici dans la vie, je vais en parler sous peu, me ferait plutôt passer pour quelqu'un de mauvais ou de carrément bête, ou pour une victime de circonstances tragiques. Ça ne prouve pas, je me rends bien compte, que je sois en train de dire la vérité, mais si je voulais me faire passer pour meilleur que je suis, ou pour plus intelligent, ou me donner l'air d'être en quelque sorte le maître de ma destinée, je le pourrais. Seulement, la vérité est plus intéressante que tout ce que je suis capable d'inventer, et c'est d'abord pour ça que je m'y tiens. Quoi qu'il en soit, mon existence est devenue intéressante, disons, l'été de mes 14 ans. J'étais à fond dans la fumette, et comme j'avais pas d'argent pour m'acheter de l'herbe, je me suis mis à fouiner tout le temps dans la maison pour dénicher des trucs à vendre. Mais il n'y avait pas grand-chose. Ma mère, qui était encore un peu comme ma meilleure amie, et Ken, mon beau-père, avaient une maison assez convenable que ma mère avait obtenue de son vrai père il y a une dizaine d'années, au moment de leur divorce. À l'écouter, ce n'est pas une maison qu'elle a reçue, mais des traites à payer, et de mon père, elle ne dit pratiquement rien. C'est ma grand-mère qui se charge d'en parler. Ma mère et Ken avaient des boulots minables et ne possédaient rien à voler, du moins rien dont ils n'auraient aussitôt remarqué la disparition. Ken faisait de l'entretien à la base aérienne, c'est-à-dire en réalité du nettoyage, mais il se disait technicien des services du bâtiment. Quant à ma mère, elle était aide-comptable à l'hôpital, ce qui est également un boulot nul, où on fait que regarder un écran d'ordinateur toute la journée en tapant sur des touches pour y mettre des chiffres. En fait, tout a commencé quand je me suis mis à farfouiller dans la maison après l'école en cherchant quelque chose pour tuer mon ennui. Des bouquins, des vidéos porno, des capotes, n'importe quoi. Et puis qui sait, ils avaient peut-être leur petite cachette de marijuana. Ma mère et Ken, surtout lui d'ailleurs, donnaient sérieusement dans l'alcool, mais je me disais qu'ils n'étaient peut-être pas aussi coincés qu'ils en avaient l'air. Tout est possible. C'était une petite maison, 4 pièces et une salle de bain, un mobil-home posé sur des parpaings comme une vraie baraque, sauf qu'il n'y avait ni sous-sol, ni garage, ni grenier. J'y avais vécu depuis l'âge de 3 ans, d'abord avec ma mère et mon vrai père, jusqu'à ce qu'ils s'en aillent, quand j'avais 5 ans, et après avec ma mère et Ken, qui m'a officiellement adoptée et qui est devenu mon beau-père. Au total, la maison m'était aussi familière que l'intérieur de ma bouche. Je croyais avoir passé au crible chaque tiroir, examiné chaque placard et fouillé sous tous les lits et les meubles. J'avais même sorti les vieux romans condensés du Reader's Digest que Ken avait découvert à la base aérienne et qu'il avait rapporté à la maison pour les lire un jour. Mais surtout pour faire bien dans le séjour. Et je les avais ouverts l'un après l'autre à la recherche de ces compartiments secrets qu'on peut aménager en découpant l'intérieur des pages avec une lame de rasoir. Rien. Ou plutôt rien de neuf. À part quelques vieux albums photos que ma mère avait récupérés de ma grand-mère, je les avais dénichés dans une boîte sur la dernière étagère de l'armoire à linge. Ma mère me les avait montrés plusieurs années auparavant et je les avais oubliés, probablement parce qu'on y voyait surtout des gens que je ne connaissais pas, comme les cousins, les tantes et les oncles de ma mère. Mais cette fois, en tombant à nouveau sur ces albums, je me suis rappelé y avoir cherché des photos de mon père à l'époque où il était encore en vie et heureux, ici, au sable, et n'en avoir trouvé qu'une, le montrant lui, ma mère et sa voiture. Je l'avais étudié comme si c'était un message secret, parce que c'était la seule photo de lui que j'avais jamais vue. On aurait pu penser que grand-père, quand même, aurait gardé quelques clichés. Eh bien non. Il y avait pourtant dans la même boîte que les albums un paquet de lettres attachées par un ruban. Mon père les avait envoyées à ma mère pendant les quelques mois qui avaient suivi son départ. Je ne les avais pas encore lues et elles se sont révélées plutôt intéressantes. J'ai eu l'impression que mon père se défendait des accusations de ma mère. Elle disait qu'il nous avait quittés pour une bonne femme du nom de Rosalie, qui toujours, selon ma mère, était sa petite amie depuis déjà des années. Mais il prétendait que Rosalie n'avait été qu'une copine ordinaire au travail et des choses comme ça. Il avait une écriture nette, avec toutes les lettres inclinées du même côté. Rosalie n'avait pas plus d'importance pour lui, écrivait-il. Elle n'en avait jamais eu. Il disait qu'il voulait revenir. J'ai presque eu de la peine pour lui, sauf que je ne le croyais pas. En plus, j'avais pas besoin des lettres que ma mère lui avait écrites pour connaître sa version à elle, parce que même si j'étais tout gamin quand ça s'était passé, il me reste des souvenirs. Si ça avait été un mec si bien que ça, pourquoi se serait-il cassé sans jamais nous envoyer d'argent et sans essayer de rester en contact avec son propre fils? Ma grand-mère avait dit « Raye-le de ta mémoire ». Il est sans doute en train de se la couler douce à l'étranger, aux Caraïbes, ou alors il est en prison pour trafic de drogue. « Tu n'as pas de père, Chaipi, » avait-elle déclaré. « Oublie-le. » C'était une dure, ma grand-mère, et j'essayais d'être pareille quand j'en venais à penser à mon véritable père. Je crois pas qu'elle ait su que ma mère gardait les lettres de mon père. Je parie que mon beau-père n'en savait rien non plus. En tout cas, cet après-midi-là, je suis rentrée de l'école en avance parce que j'avais séché les deux derniers cours, ce qui n'était pas plus mal étant donné que j'avais pas fait mes devoirs et que les deux profs des cours en question sont le genre à vous virer de la classe si vous arrivez les mains vides, une punition censée vous pousser à faire mieux la prochaine fois. J'ai cherché dans le frigo et je me suis fait un sandwich au fromage et à la mortadelle. J'ai bu une des bières de mon beau-père et je suis allée dans le séjour regarder MTV un moment, en jouant avec Willy le chat qui a pris peur et qui a détalé lorsque je l'ai fait basculer sur la tête en accident. J'ai bu une des bières de mon beau-père et je suis allée dans le séjour regarder MTV un moment en jouant avec Willy le chat qui a pris peur et qui a détalé lorsque je l'ai fait basculer sur la tête par accident. Puis j'ai commencé ma tournée. Il me fallait vraiment de l'herbe. Ça faisait 2 jours que j'avais pas tiré sur un joint, et chaque fois que je reste si longtemps sans fumer, je commence à flipper. Je m'énerve contre le monde, comme si les gens et les choses m'en voulaient, et j'ai l'impression de ne rien valoir, d'être un raté complet, ce qui est d'ailleurs assez vrai. Mais il suffit d'une petite fumette, et toute cette irritation, cet énervement, et cette saleté de manque de confiance en moi s'évanouissent aussitôt. On dit que la marijuana rend paranoïaque, mais chez moi, c'est l'inverse. Le livre en vie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Tiffaine à la technique de m'avoir accompagnée. La semaine prochaine, on reste aux États-Unis avec le dernier roman de John Cheever, On dirait vraiment le paradis. Je vous souhaite une douce semaine sur Esprit Occitalie, des lectures joyeuses et inspirantes devant la cheminée et surtout, n'oubliez pas, le livre papier, c'est la liberté.